Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau conseil de famille et aujourd'hui nous allons parler de l'enfant agité. Alors, à la maison des adolescents, nous recevons régulièrement des parents excédés, voire désemparés, qui nous amènent leur adolescent. Un adolescent qu'ils décrivent comme agité. Alors moi, si je devais dessiner un profil type de cet enfant, eh bien je dirais que c'est bien souvent un garçon qui a entre 12 et 13 ans et qui rencontre des difficultés en classe, car par exemple, il a du mal à rester assis sur sa chaise, il a du mal à se concentrer, donc à enregistrer et à comprendre ce qui se dit. À la maison, c'est un enfant qui a beaucoup d'énergie, à qui il faut répéter plusieurs fois les mêmes choses, ce qui a le don d'excéder ses parents. Actuellement, on retrouve ces enfants dans beaucoup des cabinets de psy avec le diagnostic de TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-ce un trouble neurologique ou une manière de faire face à un environnement difficile ? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos chroniqueuses. Elles sont au complet aujourd'hui. Maud Fréchoux, psychologue pour l'école des parents et des éducateurs.
Bonjour.
Bonjour Maud. Bonjour Valérie Orvin, coordinatrice et formatrice pour l'association Grandir Ensemble.
Bonjour.
Tu n'oublieras pas de nous parler des différents ateliers qui sont mis en place actuellement.
Ça marche, merci.
Et puis enfin, on retrouve Anne-Marie Kustams, coordinatrice pour le programme de réussite éducative en Lot-et-Voie.
Bonjour Laurence.
Bonjour à toutes. Alors cet enfant agité, mesdames, est-ce que ça vous parle ? Je disais qu'on le retrouvait dans nombre des cabinets de psy, mais pas que, parce que vous n'êtes pas toute psychologue, vous n'avez pas tout un cabinet en tous les cas. Vous travaillez autour de l'enfance, de l'adolescence, et vous retrouvez ces parents désemparés, non ?
Oui.
À tous les âges. À tous les âges, oui.
À tous les âges, effectivement. L'enfant agité, il bouge, il m'exaspère, il a de l'énergie, il n'écoute pas, il reste jamais assis, il marche pas, il court. Voilà. Oui, à tous les âges. Vraiment pas de profil type fille, garçon. Mmh. Peut-être un peu plus de garçon quand même.
Me semble-t-il.
Qui, quand même, voilà. Mais on en reparlera.
Alors, est-ce que ça veut dire que les filles compensent plus ? Je ne sais pas. Mmh. C'est souvent l'école qui va tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Rester en classe, écouter pendant des heures le professeur, c'est plus possible pour eux.
C'est-à-dire que ce qui est compliqué pour un enfant dit agité, c'est le rapport au groupe. C'est compliqué pour un enfant d'arriver à se poser, de s'intégrer dans des règles que confère une classe. Et donc c'est souvent à ce moment-là, c'est souvent l'arrivée à l'école où effectivement est décelé ce type de comportement. Tout à fait.
Oui, des parents m'appellent, même effectivement, on décèle ça à l'arrivée à l'école. Cependant, les parents m'appellent parfois quand les enfants ont 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans.
Ah oui.
Oui, pour me dire, voilà, il tient pas en place, alors il tape, il mord, etc. Ça, c'est le truc de cet âge-là. On n'arrive à rien en faire, etc. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup. C'est les parents qui sont agités autour d'un enfant qui est juste vachement vivant et vachement joyeux et qui bouge beaucoup et qui a besoin d'explorer avec son corps beaucoup de choses et que on aimerait que les enfants soient sages, calmes, assis, obéissent du premier coup. Mais ça marche pas comme ça, un enfant. Mmh. Et l'enfant, il va d'abord se conformer, entre guillemets, à l'ambiance qui est autour de lui, au cadre dans lequel il grandit. Et du coup, si autour de lui, il a des gens agités ou bien qui ne sont absolument pas disponibles émotionnellement à lui, eh bien, il va tout faire pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'on prenne en compte ce dont il a besoin, etc., etc. Et il va manifester ça par des comportements que les adultes vont dire agités.
Voilà, c'est pour ça que je parlais dans l'introduction de peut-être d'une réaction à un environnement
absolument.
Oui. Difficile ou en tous les cas auquel
non
l'enfant
adapté.
A du mal à s'adapter.
Mmh. Mmh. Tout à fait. Il faut vraiment différencier quand même cet enfant agité pour les causes pour lesquelles il est agité, parce que ça peut être des multiples facteurs pour lesquels il est agité. Il faut s'imaginer un exemple très simple. Les parents se séparent, l'enfant s'agite.
Bien sûr.
Parce que ce sont des événements, il ne peut pas forcément verbaliser et tout comprendre. Mmh. Donc il s'agite, parce que ça l'agite à l'intérieur de lui. Donc voilà, et là ça expliquerait, et ça serait une agitation qui va pas perdurer dans le temps, qui va aussi, s'il accompagnait, se calmer à un moment donné, que de l'agitation qui on peut appeler plus structurelle, et qui du coup pourront être à un moment donné, donner lieu à un diagnostic d'un enfant qui aurait un trouble structurel neurodéveloppemental qui s'appelle un TDAH un TDAH, avec ou sans, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Oui, alors juste, pardon, Valérie, structurellement, moi, je pense à quelque chose, c'est-à-dire que dans la même fratrie, il y en a un qui s'agite et l'autre non.
Exactement.
Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi qu'il y a quelque chose du côté de la nature de cet enfant, de...
Absolument. Valérie. On n'a pas tous exactement les mêmes besoins. Et c'est vrai que des événements comme la séparation, comme la mort d'un animal de compagnie, un déménagement, un petit copain qui s'en va, enfin, etc., ça peut d'un seul coup mettre à mal, toujours pareil, la sécurité. Et du coup, on va s'agiter pour essayer de récupérer cette sécurité. Et effectivement, dans une même famille, les enfants ne sont pas pareils. Chacun est vraiment particulier, unique, et c'est important de prendre en considération chacun avec ses spécificités. Et ça peut venir de quelque chose qui est transgénérationnel, dont un va entre guillemets hériter et pas l'autre, ou bien un enfant qui a des sensibilités différentes de son frère ou de sa sœur et qui lui va effectivement montrer par son comportement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui lui procure des émotions hyper désagréables, qui fait qu'il est en train de montrer par tous ses comportements qui nous exaspèrent, qu'il a besoin d'aide, en fait. Qu'il a besoin d'aide.
Il cherche l'attention.
Besoin d'aide.
Souvent, l'agitation de l'enfant, c'est aussi le signe de quelque chose qui se passe dans une famille. C'est l'enfant symptôme, si on peut expliquer cela. Et c'est vrai que moi, je suis assez alertée, là, notamment quand, Valérie, tu parles d'enfants qui tapent, qui mordent. Il y a aussi ces fameux profils, là, qui arrivent aussi beaucoup, les fameux TOP, les troubles oppositionnels avec provocation, c'est le terme exact. Et là, ça c'est vraiment pour des tout petits. On est vraiment sur des enfants de 3, 4, 5 ans qui frappent, qui mordent, qui crient, et des parents qui sont effectivement démunis, épuisés, et qui arrivent, en tout cas pour ma part, au point écoute sur l'ODEV, avec déjà le sentiment d'avoir raté quelque chose. Et c'est vrai que là aussi, on c'est important de réfléchir. Alors, Anne-Marie qui parlait de troubles neurodéveloppementaux, mais là, les TOP, on est aussi sur des difficultés éducatives aussi parfois et de manque de repères éducatifs avec des parents qui ont du mal à poser un cadre et avec des enfants qui manifestent aussi une insécurité émotionnelle qui est vraiment générée par un manque de repères éducatifs. Donc
c'est parfois entretenu.
Exactement. Donc c'est l'accompagnement familial qui peut vraiment, en tout cas, permettre une amélioration très rapide de la situation. Ou bien après, on peut aussi aller vers l'hôpital. C'est possible aussi. Je sais qu'à l'hôpital, superplantade existe. Alors le terme exact du groupe, je ne connais pas, mais c'est sur l'enfant tyran, où donc il y a un pédopsychiatre qui accompagne les parents.
Alors c'est les groupes Barclay.
Alors il y a le groupe Barclay,
mais
il y a les enfants tyrans. C'est un nouveau groupe qui est sorti il y a 2 ans. Et là, c'est vraiment pour permettre à des parents qui ont des enfants un peu vifs de pouvoir y répondre de manière éducative.
Voilà. Parce que c'est pas un euphémisme un peu.
Alors les groupes Barclay effectivement sont peut-être plus pour les enfants un peu vifs avec un tas d'outils.
Alors que ça, c'est enfant tyran. Donc
et enfant
tyran,
on est quand même un cran au-dessus et on n'est pas du tout sur le même diagnostic même qu'un enfant agité.
Non, c'est les vrais TOP. Après, il y a des...
TOP, on peut rappeler la définition.
Troubles oppositionnels avec provocation. Ce sont des enfants qui vont chercher les limites, chercher en permanence. Et quand ils la trouvent, ils
explosent. Ils vont encore plus loin, d'ailleurs.
Voilà, c'est les enfants qui n'arrivent pas à se positionner et à intégrer les limites.
Voilà, alors je sais qu'à Perplanta, donc c'est dans ces groupes qui sont proposés, à différents groupes, le Barclay, les groupes pour les enfants tyranniques, je sais qu'il y a notamment faire relais avec d'autres, d'autres figures parentales ou d'autres membres de la famille ou des amis et tout, pour un petit peu sortir de ce huis clos sur lequel on va s'énerver jusqu'à la maltraitance parfois.
Bien sûr, c'est avoir du répit, c'est fondamental pour ces parents-là. C'est fondamental de proposer qu'effectivement, par exemple, moi, la semaine dernière, voilà, de manière très très actuelle, une maman qui a un enfant effectivement qui est considéré tyrannique, hein, c'est comme ça que le médecin, en tout cas la père Plantade, et il est inscrit dans ce groupe-là, et l'accompagnement de cette maman, c'est aussi lui dire, vous en pouvez plus, là c'est les vacances scolaires, il y a le centre de loisirs. Oui. Et elle me disait, mais il s'éclate en plus au centre de loisirs. J'ai dit, mais voilà, c'est très bien, comme ça vous permet de vous reposer. Lui, il est au centre de loisirs, il a ses copains. Et en plus, il va développer d'autres interactions avec ses adultes au centre de loisirs. Donc c'est très intéressant. Donc ne pas hésiter effectivement à proposer aux parents des espaces de répit pour leur permettre de souffler et de retrouver un peu de sérénité au sein de la famille. C'est important.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme dénominateur commun chez ces enfants ? Moi, je parlais de problèmes de concentration. Qu'est-ce qui existe encore ? Par exemple, le rapport à la frustration.
Qu'est-ce qu'on retrouve encore chez tous ces enfants ? Un peu le dénominateur commun ? Ben, effectivement, hein, un besoin de bouger, un besoin vital, en fait, pour eux. Hein, pour se concentrer, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être debout, ils ont besoin de toucher, de fripoter, de démonter leur stylo. Ils perdent leurs affaires.
Oui.
Alors ça, très souvent. Donc, on entend justement les parents dire « J'ai acheté 4 trousses déjà cette année. Les cahiers de brouillon, je les compte plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore en dénominateur
Alors,
commun ?»
Alors, à l'adolescence, ils cassent les portables. Et pourtant, Dieu sait que c'est important pour eux. Mais ils arrivent à les casser quand
c'est
même.
C'est ça.
C'est maladroit. Ouais.
Les parents
c'est
en sont quatrième, cinquième portable.
Ils tombent beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui tombent.
Oui, petits, ils tombent beaucoup. Ils se font mal.
En fait, c'est-à-dire que les enfants qui sont vraiment diagnostiqués TDAH, hein, il faut aussi être...
Oui.
Ce sont les enfants qui ont du mal à trouver leur équilibre aussi. Et souvent, ils cherchent l'équilibre en prenant des risques au niveau moteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer assez facilement quand on a un enfant. Hein. C'est-à-dire que voilà, il va se mettre sur un petit muret et il va escalader et il va tomber. Et ce sont des enfants qui tombent beaucoup.
Mais ces enfants casse-cou.
Ils sont surtout plutôt casse-cou que celui qui, je préfère ce terme-là, que maladroit.
Ils sont casse-cou.
Parce que ils ont du mal à intégrer les dangers. Et ils ont du mal à repérer le danger aussi. Donc, on a l'impression qu'ils se mettent en danger tout le temps, ce qui fait qu'ils tombent. Parce qu'ils ont aussi cette sensation que ça leur procure. Ils sont plus sensibles à ça aussi. Donc, ils aiment se mettre un petit peu en danger parce que l'adrénaline, ils y sont très sensibles à ça. Mais ils repèrent beaucoup moins les risques et les dangers. Donc, du coup, on va avoir l'impression que c'est un enfant maladroit, mais c'est plutôt la les question casse-cou. Des risques. Parce que sinon, les enfants maladroits, on aurait plutôt...
Après, c'est dyspraxie.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est un dénominateur commun et aussi l'hypersensibilité. Des enfants qui sont très, très sensibles.
Voilà, moi je tiens à dire que ça fait après par la suite des adultes hyper créatifs.
Tout à fait. C'est bien contrôlé, oui.
Oui, pour revenir à cette histoire d'enfants casse-cou, c'est aussi des enfants qui ont besoin de passer par leur corps pour expérimenter et obtenir finalement leurs propres limites, parce qu'on a beau leur dire ne monte pas là-dessus, ne touche, tu vas te faire mal, ne touche pas ça, tu vas te brûler, ils le font. Et les parents nous disent cet enfant me provoque. Et moi j'essaie de faire comprendre aux parents non, ce n'est pas de la provocation, mais c'est très difficile.
Ils cherchent
eux-mêmes
leurs propres limites. Tout à fait.
Et ça a besoin d'être accompagné.
Oui, Valérie.
C'est tout à fait d'être accompagné, d'être encadré, d'être permis, donner la permission de ça, mais d'être là pour assurer,
c'est ça,
pareil, la sécurité de l'enfant qui va aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc effectivement, ça demande une grande présence, patience, etc. de la part des parents. Donc toujours pareil, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de cet enfant particulier qui demande beaucoup d'énergie et d'attention
et beaucoup de vigilance
et d'attention et de vigilance.
Donc forcément, au bout d'un moment, quand on fatigue,
c'est épuisant.
Justement, avec cet épuisement, on va dire non mais là c'est bon, il me provoque en fait.
Ouais,
donc on va partir dans les raccourcis parce que on n'a plus d'énergie, plus d'espace psychique disponible pour réfléchir, voir les choses autrement, l'observer de notre angle et notre regard, et que du coup, bah, on va passer par les raccourcis en disant, voilà, il me provoque, de toute façon, il fait exprès. Bon, évidemment, il y a aussi parfois, et heureusement, ce sont aussi des enfants tout à fait comme les autres, et que parfois ils testent les limites, et que parfois ils en jouent aussi, et que voilà, hein, faut pas non plus tout expliquer par que par là, etc. Mais faut pas oublier aussi que quand ces enfants sortent du centre de loisirs ou de l'école, bah, c'est toujours, oui, il faut que je vous parle, hein, parce que franchement, la journée, c'est un peu long, hein.
Donc, ouais, donc voilà. On développe en tant que parent beaucoup de culpabilité aussi, hein, d'avoir des enfants comme ça, parce que le retour des professionnels est souvent, parce que c'est difficile pour les professionnels, effectivement, d'avoir des enfants comme ça dans un groupe. Mmh. Et du coup, les retours, ouais, le soir sont très, très culpabilisants.
On a plus envie. C'est la spirale aussi, c'est-à-dire que la spirale, ce que disait Anne-Marie, c'est que on peut rentrer dans la violence aussi en tant que parent, parce qu'on n'en peut plus. Ou bien il y a le cas totalement inverse, où le parent se suradapte. C'est-à-dire qu'il a tellement l'habitude de ce comportement-là qu'il n'a même plus l'évaluation que c'est pas normal, finalement.
Okay.
Et c'est pour ça que l'école, quand elle arrive et qu'elle vient dire à ses parents, là, il y a quelque chose qui ne va pas, le parent dit, mais non, à la maison, oui, mais ce n'est pas normal, ça, monsieur ou madame. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène de suradaptation que les parents, parce que eux, c'est leur quotidien, ils connaissent ça depuis toujours.
C'est ça.
Donc,
puis c'est dur aussi d'accepter que son enfant, part, voilà, n'est pas dans cette fameuse norme.
Super dur.
Voilà, c'est super dur. Ça demande un deuil, quand même, de l'enfant souhaité, parfait, etc. Qu'on a tous à faire, hein, quelque part. Mais là, c'est supplémentaire.
C'est vrai que c'est des enfants qui rentrent pas tout à fait dans les cases de l'éducation nationale. Et je pense que, à notre époque, je pense que c'était souvent ce qu'on considérait comme des cancres. Qui étaient au fond de la classe, qui s'agitaient.
Avec le bonnet d'âne.
Quand il n'était pas viré. Moi, j'ai pas connu le bonnet d'âne quand même. Mais dis donc, tu es bien vieille. Pour avoir connu le bonnet d'âne.
Non, mais dans les échanges et les textes que j'ai pu lire, effectivement, c'était ses anciens élèves qui étaient.
Oui, c'était les cancres au fond de la classe, quand ils ne se faisaient pas virer. Mmh. Voilà. Et tu voulais dire quelque chose, Valérie, quand j'ai dit il ne rentre pas tout à fait dans les cases de l'éducation nationale.
Alors, on sait quand même que le cadre de l'école n'est pas forcément très, très adapté aux vrais besoins des enfants. C'est-à-dire qu'à l'état naturel, un enfant ne reste pas assis toute une journée avec 30 autres personnes dans une classe. Hein. Si nous, on vit ça, au bout de deux jours, on pète les boulons.
Oui, ça fait beaucoup d'exclus. Mais voilà. D'ailleurs, je voulais parler de la génétique, parce que on dit aussi que chez les enfants hyperactifs, on va rechercher, mais madame, monsieur, à qui il ressemble cet enfant ? Et on retrouve, chez
souvent,
le parent
souvent
des traits.
Un des deux parents qui a effectivement...
Ça peut sauter une génération.
Mais dans
il si me on... fait des fois penser à tonton.
Hein. Mais si on retrace un peu l'histoire familiale, effectivement, on se rend compte qu'il y a dans la famille un oncle, un cousin, et ce qu'il faut savoir, que un vrai trouble d'hyperactivité, à l'âge adulte, il y a tout un tas d'adaptations qui permet à beaucoup d'adultes de fonctionner, en fait.
Absolument.
Je crois qu'il faut rassurer les parents dire que c'est pas qu'on a un enfant TDAH ou TDAH que sa vie est terminée.
Qui sera inadapté
non,
toute
pas
sa
du
vie.
Tout.
Absolument.
Mais ce sont des adultes qui ont un peu leur particularité, mais qui n'en a pas en même temps.
Super créatif en même temps.
Et super créatif, très sensible. La sensibilité, c'est quelque chose de très chouette aussi. Mais ce qu'il faut vraiment dire aux parents, et on en parlait tout à l'heure en aparté avec Anne-Marie, c'est que l'enfant, il est constitué de trois socles. Les relations familiales, les relations sociales et les relations scolaires. Oui. Et lorsqu'il y a un de ces pans-là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est important de le prendre en compte et d'essayer d'aller chercher ce qui se passe. Tout
ce
simplement.
Ce sont les trois, comme je
disais. C'est les trois socles.
Les trois socles, où il faut être alerté. S'il y en a un dans lequel l'enfant est en souffrance, où vous le sentez mal, n'hésitez jamais à consulter. À consulter votre médecin, peut-être en premier lieu, qui pourra vous guider sur un suivi psychologique, sur des choses qui sont importantes.
Ou des accompagnants.
Des accompagnants. En tout cas, ce qui vous convient aussi, parce que c'est important pour que chacun puisse trouver un accompagnement qui lui convient.
Exactement.
De ne pas hésiter à consulter. Et que ce n'est pas parce que votre enfant est agité qu'il est forcément TDAH ou TDAH.
Exactement.
Ou qu'il est forcément... il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte sur un enfant qui est agité.
On écoute tout de suite ton héritage, Benjamin Biolay.
« Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage. Si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan. Si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse en plan. Si tu as peur du sommeil et du ciel trop grand. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille rouge sang. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans. Et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans.
On va écouter tout de suite la chronique de Maud Fréchoux.
Remuant, turbulent, bruyant, insupportable, parce qu'ils mettent à mal les adultes et compliquent la vie familiale et scolaire, ces enfants suscitent la préoccupation des parents et des éducateurs. Que viennent dire ces comportements d'agitation? Quelles réponses éducatives apporter? Le pédopsychiatre Daniel Marcelli aborde ce sujet en se demandant qu'est-ce qui est vraiment devenu difficile, les enfants ou notre manière d'éduquer? À quel moment le comportement d'un enfant peut-il être qualifié de difficile, voire de pathologique? D'après mon expérience de psychologue, quand les parents commencent à s'épuiser ou que des tensions apparaissent dans le couple, il est temps de chercher un tiers pour comprendre ce qui se passe. Par ailleurs, les parents d'aujourd'hui sont soumis à trop de discours éducatifs contradictoires. Ils manquent souvent de repères. Ces dernières années, les professionnels de terrain constatent de plus en plus de consultations pour des enfants dits agités. Mais de quoi parlons-nous ? Parallèlement, s'est accrue la demande de prescrire des traitements aux enfants présentant des comportements d'agitation. Les professionnels s'inquiètent de l'augmentation de ces prescriptions. Voici un chiffre révélateur. Les prescriptions ont bondi de 116% entre 2010 et 2019. Une réponse rapide à un symptôme. Mais attention à ne pas faire l'impasse sur une prise en charge globale de la famille, d'un travail autour de l'histoire et de la place de l'enfant. Derrière les symptômes, il y a souvent un problème de société. Nous allons aujourd'hui tenter de réfléchir à ce que vient dire l'agitation de l'enfant. À quel moment faut-il s'alerter et demander de l'aide ? Une démarche souvent très difficile pour les parents, pris dans la honte et la culpabilité de ne pas savoir s'y prendre.
Voilà, merci beaucoup Maude qui reçoit donc de nombreux parents et des enfants qui s'agitent. Alors tout à l'heure en off, tu disais quelque chose de très intéressant, c'est que l'enfant qui est agité, l'enfant qui souffrirait d'hyperactivité, il n'est pas que hyperactif à la maison.
Oui, alors ça, moi, c'est une question que je pose, je crois que c'est la toute première question que je pose aux parents lorsqu'ils viennent me voir en me disant « mon enfant est hyperactif ». Déjà, ce mot « hyperactif », il est galvaudé. Parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Voilà, hyperactif, voilà. Alors que d'un point de vue médical, ça veut dire autre chose. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui est important à reprendre. Et les parents viennent souvent, et tu le disais tout à l'heure, Laurence, sous couvert de l'école, hein, qui dit, voilà, amenez votre enfant parce qu'il n'arrive pas à s'adapter aux règles scolaires, il n'arrive pas à se mettre au travail. Et je pose la question aux parents, mais est-il agité à la maison ? Et quand les parents me disent non, je leur dis de manière très rapide que c'est pas de l'hyperactivité. Ce n'est pas un TDAH. Voilà. Un enfant qui est TDAH, il est TDAH, c'est-à-dire qu'il est agité dans tous les domaines de sa vie. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose qu'un parent, n'importe quel parent, peut observer et peut repérer. Un enfant qui est agité à l'école et qui est très calme lorsqu'il va faire du judo, hein, je prends, voilà, ou foot, ou ce que vous voulez, il n'est pas hyperactif. Voilà. Ça, c'est très, très clair.
Alors, il faut faire attention aussi parce que ces enfants qui souffrent d'hyperactivité, même si c'est galvaudé, je n'ai pas d'autres mots là tout de suite.
Oui, agité.
C'est des enfants qui, bizarrement, vont arriver à avoir une capacité de concentration quand quelque chose leur plaît. Mmh. Et là, on se dit, ah ouais, génial, j'ai trouvé un truc. Et ben, en effet, vous avez trouvé un truc. Donc, si vous avez senti qu'il y a quelque chose dans lesquels ils se libèrent et ils se concentrent et dans lesquels ils sont bien, ils sont à leur place, n'hésitez pas.
Allez-y.
Voilà,
mmh,
si c'est un sport, allez-y. Si c'est une activité de musique, de, j'en sais rien, si c'est pour des petits, c'est faire des Legos, en avant, quoi. Allez-y, sortez.
Oui, parce que ce qui est fondamental pour ces enfants, c'est que souvent, ils ont l'estime de soi qui est très abîmée.
Et
ce sentiment d'échec et de pas répondre aux exigences des adultes.
Oui.
De pas bien répondre à la maîtresse de ce qu'elle attend de lui. De pas bien répondre aux parents de ce qu'ils attendent de lui. Et de pas bien répondre non plus avec les copains. Parce qu'ils ont pas beaucoup de copains, ces enfants-là. Donc, s'ils ont un sport dans lequel ils se sentent bien, dans lequel il y a vraiment une valorisation, ça participe vraiment à son développement. Ça peut être aussi, écouter de la musique. Souvent, ces enfants sont très sensibles à la musique.
Oui.
Ou faire de la musique.
Tout ce qui est sensoriel.
Tout ce qui est sensoriel.
Oui.
Voilà.
En général,
ils sont très attirés au sensoriel. Tout à fait.
Voilà, justement, la vitesse,
exactement.
Ce qu'on disait toujours tout à l'heure, l'adrénaline,
courir.
Qui leur plaît courir. Voilà.
Tu disais, Anne-Marie, que c'était des enfants aussi qui étaient en difficulté dans leurs interactions sociales.
Alors, les enfants, effectivement, qui ont véritablement trouble d'attention, hein, on parle là-dessus, effectivement, dans la communication avec l'autre, on a besoin d'une concentration un maximum, hein, de l'attention au maximum, parce que quand on parle à quelqu'un, on se rend pas compte, on fait ça automatiquement, mais voilà, il y a le verbal, le non-verbal, il y a des choses autour, il y a des choses à retenir d'avant, d'après, de hier, enfin voilà. Et ces enfants-là, ils vont rater des moments ou des informations ou des indices et qui font que soit ils se sentent pas compris, soit ils trouvent les choses pas justes, soit ils ont pas compris l'autre et que du coup ça crée des conflits. ça crée des conflits et en plus de ça, on peut avoir donc du coup associé à une hyperactivité qui fait que, en fait, c'est pas vraiment de l'hyperactivité, c'est un trouble de l'inhibition. C'est-à-dire, ils arrivent pas bien à inhiber certaines choses que nous on fait automatiquement. Hein. Voilà, on se rend pas compte, hein, notre corps régule pas mal de choses de façon automatique. Et du coup, bah, ils sont et agités et puis en plus ça crée du conflit et tout ça. C'est compliqué d'avoir
tout
des copains, quoi.
Et pour reprendre ce que dit Anne-Marie, c'est que ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal au niveau de la régulation émotionnelle.
C'est ça.
C'est quelque chose qui est très compliqué. Et quand Anne-Marie parle d'inhibition, il y a souvent aussi des phénomènes d'hyperacousie. C'est-à-dire que vraiment une incapacité à trier les sons.
Donc
ça les rend très très agités parce que du coup ils régulent pas les sons. Donc ça c'est pour ça que c'est très important le diagnostic différencié, d'aller chercher comme ça qu'est-ce qui peut apaiser l'enfant.
Alors justement
le sucre aussi. Alors ça il y a une étude très 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 importante qui est sortie il y a pas longtemps.
Le sucre portable.
Le sucre chez les enfants agités, enfin en tout cas qui sont qui bougent beaucoup, essayez les parents de limiter parce que ça là par contre c'est là la conséquence, les effets sont très clairement identifiés par le médecin.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents avant peut-être d'en arriver à une médicamentation?
Alors déjà, de bien se mettre au clair par rapport à est-ce que c'est vraiment un enfant qui est TDA ou TDAH, ou est-ce que j'ai juste un gamin qui a carrément la patate et qui
a besoin
qui n'arrête pas. Et surtout, regardons, toujours pareil, qu'est-ce qui se passe à la maison? Parce qu'on voit bien tous qu'on vit dans un monde à 100 000 à l'heure, là, et que on est quand même, nous, en tant qu'adultes, déjà franchement agités. Et que du coup, n'oublions pas qu'on a des neurones miroirs, les enfants ont des neurones miroirs, du coup, les enfants font ce qu'on fait, ne font pas ce qu'on dit, et ils se comportent comme nous. Donc essayons déjà de regarder c'est quoi l'ambiance à la maison, comment ça se passe quand on rentre tous le soir? Est-ce qu'on passe notre vie à leur dire dépêche-toi, fais pas ça, viens là, enfin donner des ordres sans arrêt qui fait que leur cerveau il est complètement en live et qu'il n'arrive plus à répondre à ce qu'on demande? Voilà, regardons déjà ça et essayons de mettre des temps à la maison, le matin avant de partir, le soir quand on est ensemble, de jeux tranquilles et surtout de donner des moments de jeu pour décharger toujours aux enfants. Et n'oublions pas aussi d'emmener les enfants dehors parce que les enfants sont beaucoup beaucoup assis devant des écrans et ne jouent plus dehors donc ils ont besoin de grimper aux arbres, ils ont besoin de courir partout, de faire du vélo, de la trottinette, des trucs, des bidules. N'oublions pas ça. Est-ce que mon enfant serait pas trop agité parce que juste il manque d'activité physique en fait? Enfin voilà, posons-nous toutes ces questions avant peut-être de l'emmener consulter un médecin ou je sais pas quoi, et ensuite effectivement n'hésitons pas, allons voir des professionnels pour avoir leur avis, se faire accompagner, déculpabiliser et mettre en place des choses qui vont aider nos enfants et nous avec.
Voilà. Un autre conseil pour ses parents?
Moi, j'ai toujours en tête, le parent, c'est le premier observateur de son enfant. Donc, faites-vous confiance. Si vous ressentez quelque chose qui vous inquiète, quelque chose votre enfant souffre, qui est pas épanoui, quelque chose qui va pas, n'hésitez pas, parlez-en, essayez d'aller voir des professionnels. C'est difficile, je sais, mais essayez.
Voilà, puis moi je donnerai un dernier conseil, en tous les cas, l'idée que les choses puissent aller mieux, c'est-à-dire que je suis persuadée que ces enfants agités font des adultes très créatifs, prometteurs et qui vont être des meneurs plus tard dans leur profession, dans leur vie de manière globale. Merci à toutes, merci Anne qui était à la technique de cette émission aujourd'hui. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée demain à 13h. Au revoir, merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.